Voilà, quand quelque chose nous arrive et que nous ne comprenons pas, on a, depuis le début août, réfléchi sur, ou regardé en tout cas, un des livres de l'Écriture qui se trouve dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Et Job était cet homme intègre et juste devant Dieu. Cet homme qui entretenait sa famille, qui avait une bonne renommée, qui était l'homme le plus riche de son temps. Et donc, nous avons ausculté un petit peu les chapitres 1 et 2, où la catastrophe arrive. L'adversaire vient discuter avec Dieu et soupçonne les motivations de Job. L'adversaire dit finalement, Job, il te sert parce que tu prends trop bien soin de lui. Alors on lui enlève son troupeau, ses serviteurs, son travail, son argent, ses enfants, sa célébrité. Et la réponse de Job, c'est béni soit le nom de l'Éternel. Alors le diable revient, j'ai un plan B. Si maintenant on touche à sa santé, à son corps, je suis sûr qu'il te renie en face. Et on sait que sa santé est devenue défaillante au point d'être défigurée, couvert d'ulcères, dépressif, ayant du mal à respirer, n'ayant plus que la peau sur les os, de la fièvre, et finalement plus d'espoir. Et le nom, et la réponse de Job, c'est que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Bon, ça avait bien passé. Voilà, merci. Et puis arrivent ses aménomies. Alors vous dites, il a fait une faute, le pasteur. Alors les aménomies, c'est un condensé de ses amis qui agissent comme ses ennemis. C'est-à-dire, c'est des gens qui devraient bien agir, qui ont des peut-être des bonnes motivations, mais qui finalement, par leurs mots, par leur attitude, deviennent vraiment les ennemis. Et ces amis, ils ont d'abord, ils viennent de loin, ils se passent le mot, et ils viennent, et là, pendant 7 jours, on les a vus faire deuil avec Job. Tu vas certainement mourir. Et pendant 7 jours, ils font silence, ils se taisent, ils sont juste là. Et des fois, dans le deuil, c'est tout ce qu'on a besoin, hein. C'est que quelqu'un soit à côté de nous. On ne peut pas tout comprendre. Mais bientôt, ils vont se transformer en ennemis. Et ils vont pas tarder à lui faire un procès. J'ai appelé ça débat, mais c'est plus un procès. Eliphaz, le premier, c'est un philosophe. Il dit, « Oh, j'ai observé !» Et face à ses observations, il suggère, « Tu es un insensé, Job !» Le jugement qu'il établit, c'est tu récoltes ce que tu as semé. Tu as agi en insensé, tu récoltes ce que tu as semé, ne te plains pas. Bon, voilà, les diapositives sont mal faites. Et puis, vient Bildad. Bildad, c'est le deuxième. Il vient et dit, écoute, tes enfants ont péché, ils sont morts, voilà, ça c'est réglé. Mais en plus que ça, Job, tu es un hypocrite. Tu mets une façade, tu vis mal. C'est normal ce qui t'arrive. Et puis arrive Tsophar. Lui ne suppose pas, il assume. Il dit, hé Job, si vraiment tu étais bien, Dieu ne te punirait pas. Ou alors, peut-être Job. Tout cela, c'est de la faute de Dieu. Peut-être, il faut que tu comprennes que finalement, c'est Dieu qui te fait du mal. Sur ce fait, effectivement, Job crie. Il réagit. À un moment, il dit, il me faut un arbitre. Entre ce Dieu qui me veut du mal, mes amis qui continuent de me détruire, moi je veux un arbitre, je veux quelqu'un avec qui je peux m'entretenir. Job 9, 33, n'y a-t-il point d'arbitre qui puisse poser sa main sur nous deux ? J'ai besoin d'un médiateur, d'un défenseur, quelqu'un qui prendra fait et cause, qui analysera et qui décidera. Alors Job va voir Dieu, une première fois. Et là, il va lui poser trois questions. On les a vues la semaine dernière. C'est vrai, je sais bien qu'il en est ainsi, mais comment un homme peut-il être juste devant Dieu ? Et on va voir tout à l'heure. On a vu la réponse la semaine dernière, que la Bible dit qu'il n'y avait aucun qui était juste. Au verset 14, il dit, « Et moi, comment pourrais-je lui répondre ? Comment est-ce que je vais argumenter avec Dieu ? Quels mots, quelles paroles je vais choisir ? Est-ce que je peux le faire ?» Et on a vu dans le chapitre 10, verset 18, finalement la question existentielle, mais finalement Dieu, si c'est pour me punir, si c'est pour me faire mourir, pourquoi est-ce que je suis né ? Les éléments de réponse qu'on a abordés la semaine dernière, c'est que nul n'est juste devant Dieu. Psaume 14 dit « Dieu regarde au-dessus de la terre pour voir si un homme le cherche, si un homme est juste. » Et la Bible dit qu'il n'en trouve aucun. Le seul médiateur à venir par rapport à Job, c'est Jésus, le Messie attendu. C'est lui le médiateur. C'est lui qui, non seulement a payé, mais en plus défend nos intérêts. Qui, face à l'adversaire qui argumente, va dire « C'est déjà fait, on a déjà payé. » Et la dernière chose par rapport à sa naissance, on sait très bien que Dieu, lui, il a un plan. Jérémie 29 dit « J'ai un plan pour vous, un plan de paix, non pas un plan de malheur. » Alors, va arriver un cas. m'est revenu un petit peu. On se dit, ah ouais, peut-être la bonne route, c'est celle que je n'ai pas voulu prendre. Peut-être si j'avais écouté. L'homme du mal, le préserver de l'orgueil, afin de garantir. De nous pousser à tomber, de nous dire que nous sommes de mauvaises personnes, que tout ce que nous méritons, c'est l'enfer, que nous sommes indignes, mauvais. Plus juste que les autres. On vient de la boue tous les deux et nous y retournerons. Il veut garantir mon âme de la fosse. Il veut pas que je retombe. Personne ne peut avoir la vie et la perdre. Mais Dieu veut nous garder sur la boue. Tu as des arguments plus lourds que les siens ? Je t'avertis. Dieu ne veut pas que tu t'égares, que tu tombes dans l'orgueil. Il ne veut pas que tu prennes des coups. Il t'aime. C'est ton père. Tu es dans des conditions difficiles, Job. Et tu veux savoir pourquoi ? Tu te dis sans péché. C'est traduction libre, hein? C'est traduction JCR. Dieu te parle, mais tu ne... Un peu plus loin, chapitre 35. Élu reprit, penses-tu être dans ton droit ? L'homme s'élève, hein ? Dans notre siècle, l'homme s'élève au-dessus de Dieu. Car tu dis, est-ce utile pour toi ? Que me sert-il de ne pas pécher ? Ah bah alors ? Avec toi. Considère le ciel et vois. Regarde les nuées, comme elles sont élevées au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Quand tes transgressions se multiplient, et on découvre dans la création des choses, tous les scientifiques, hein, ils arrivent à trouver des choses maintenant qu'ils ne suspectaient pas. Et quand tu regardes ça, ça te dit quoi ? Tu crois que toi, tu vas toucher Dieu par ton péché ? Que tu vas le faire tomber ? combien je suis résistant. Le diable, il a des combines, mes amis. Dieu. Tu n'es pas supérieur à Dieu, tu n'es même pas son égal. Tu es son enfant. Et tu en as une dépendance, c'est lui qui crée. Alors il va apporter un troisième élément. Au début, il devait se dire, alors, t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à dire, hein? Et puis au fur et à mesure que Élie Et là, Élie lui dit, attends, je vais encore t'expliquer car j'ai beaucoup de propos pour la cause de Dieu. Pour, c'est écrit quoi là? Pour, là? Je défends tes intérêts, je défends les intérêts de tes amis, et il dit, mais tu te réclames de Dieu, alors moi je défends. Ne sont pas des mensonges, celui qui est avec toi est parfait dans sa connaissance. Dieu est puissant, il ne renonce pas, il est puissant. Il ne détourne pas les yeux des justes, il place des rois sur leur trône, il y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Sont-ils liés de chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'affliction? Ils dénoncent. Qui était un ange, qui servait Dieu, le diable. Et à cause de ça, il est tombé. Nous pouvons tomber, mes amis, parce que nous croyons être forts. Il fait droit aux affligés. Tu te crois affligé? Alors Dieu va prendre soin de toi. Et si vous relisez les trois autres discours des autres, ils lui ont dit, entre les lignes, Job, si tu crois en Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Ton avenir est fait d'espérance. Mais il n'a pas entendu. Et là, il fallait que Élie lui dise face à face, dans des termes clairs. Il veut que tu reviennes du mal. 2 Chroniques 7, 14, 1. Les incroyants là, mes amis, on n'est pas en train de parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu, on est en train de parler de ceux qui ne comprend pas tout, moi non plus, mais une chose est sûre, Dieu est fidèle. Celui qui a commencé en vous ces choses les rendra parfaites pour le jour de Jésus-Christ. Ah si Élie avait toute la connaissance de toute la Bible, hein, il aurait pu lui citer les textes de Paul, les textes du Nouveau Testament, les textes des psaumes, mais il ne les avait pas. Alors, Élihu va faire la synthèse de ce qu'il dit. Synthèse qui, à mon sens, état d'esprit. Mais Dieu, mais Dieu, sauve le malheureux dans sa misère. Job, il est couvert d'ulcères. Il n'a plus faim. Il n'a plus que la peau et les os sur le dos. Et réjouissant. Mais si tu ne t'entraîne pas à la moquerie. Que la grandeur de la rançon de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. C'est ce que tu Il n'est pas en train de juger, de critiquer, d'anéantir. Mais il prend là le parti de Dieu et il dit, Job, Dieu t'aime. Tu dis que tu es juste, que tu es droit. Regarde, regarde ce que la souffrance est en train de te faire. Tu t'éloignes de celui qui t'aime. Tu l'as abandonné des yeux, tu l'as critiqué. Car la souffrance te dispose, Dieu est grand par sa puissance. Dans ces choses, tu as quelque chose à apprendre. Mais des outils pour faire confiance à Dieu. Devancer la pensée de Paul dans Romains 8, hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il y a environ 16 siècles entre les deux. Donc si la Le péché de Job n'est pas de savoir pourquoi il souffre. Et notre péché n'est pas afin de préparer son entretien. Vous imaginez Job ? Je vais rentrer dans le bureau, tu vas voir ce qu'il va. De quel pas de sagesse. pas de discernement. Elihu prépare Job. Et Job, respire. Écoute ce que Dieu a fait. Parce que quand tu vas le rencontrer, si tu es dans cet esprit-là, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Change. Tu verras alors que ton entretien sera tout différent. Pour les aider à quoi? À comprendre que seul Dieu peut transformer une mésaventure en message. Seul Dieu peut transformer une tribulation, une difficulté. Victime en une personne victorieuse. Est-ce que quand nous quittons ce que nous avons été voir, ce on peut être rassuré qu'on les a amenés proches de Dieu? Qu'ils auront pris nos mots non pas comme des mots de jugement, des mots d'écrasement, mais des mots d'encouragement. Seul Dieu peut le faire. Pas un homme. À la fin du texte de Job, Dieu demande à Job de prier. Lui ait dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Il viendra plus jamais à l'église. Soyons comme en leur parlant de ce Dieu tendre, de ce Dieu qui a de la compassion, de la miséricorde, dont la Bible dit qu'il est lent, lui, à la colère. Un Dieu qui nous aime. Et un Dieu qui, si il nous permet de passer par l'épreuve, selon 1 Corinthiens 10, 13, va nous donner aussi les moyens d'en sortir. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple d'Élihu. Merci parce que même si des mots des fois difficiles pour Job, il a voulu le faire dans le respect de l'Esprit, poussé par l'Esprit, et dans le respect de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes souvent démunis devant ceux qui souffrent. Ne comprennent plus ce qui leur arrive dans leur vie. Et ce sont souvent nos mots qui finissent de les décrocher. Seigneur, il ne devrait pas en être ainsi. Cet exemple d'Élihu nous rappelle d'annoncer la parole de Dieu, mais aussi d'encourager, d'exhorter, d'être auprès de ceux qui ne comprennent pas. Non pas pour tout leur expliquer. Devant nous des hommes et des femmes qui nous servent d'exemple. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Merci Père, parce que tu es ce Dieu qui dans cette église devine été, peut-être les mots qui ont été prononcés par vos proches, par des chrétiens, par des frères et sœurs, ont fini de vous décourager. Dans le respect de Dieu. Et puis peut-être vous dites ce matin, ben moi, pour le bien de Dieu demain. Je ne suis pas expert, mes amis. Mais je propose qu'on et pour qu'on fasse. Afin d'être auprès de nos frères et sœurs qui souffrent. Des sources d'encouragement. Et Seigneur notre Dieu, nous. Déjà, je veux te prier pour ces frères et sœurs qui ont été découragés par nos mots, par mes mots, les mots de quelqu'un, d'un de tes enfants. Et Seigneur, ce matin, tu veux guérir son cœur, guérir ses cœurs qui ont été blessés. Seigneur, nous demander pardon. Et nous savons que non seulement tu nous pardonnes, mais tu veux aussi nous purifier. Mensonge, mais les amener vers toi, afin que ça soit toi qui réconcilie, que ça soit toi qui cicatrise. Soit autour de nous, te vois-toi. Au nom de Jésus. Amen.